Vous écoutez
RMC.
On démarre sur le match Saint-Étienne-Bordeaux. On a Benjamin au 32-16 qui est supporter bordelais. Benjamin, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, salut, Benjamin.
Bon, salut, c'est pas Benjamin. Le match de l'année, mais tu l'apprends, quoi, celle-là.
Ouais, on l'apprend, mais bon, après, on a eu une première mi-temps, on a fait 15 bonnes minutes.
Oui.
Après, Saint-Étienne nous a un peu marché dessus, quand même, sur la fin de la première mi-temps. Et puis après, débriefer la seconde période, c'est compliqué, quoi.
Ouais, t'as raison, mais déçu, moi je...
Soulignons quand même la qualité de la pelouse de Saint-Etienne, parce que vous avez vu qu'à la fin, il y a
la vitesse,
hein.
La vitesse où elle s'est dégorgée, cette pelouse, incroyable, super, ouais, bravo.
Comme quoi, c'est vraiment spectaculaire, ce nouveau système et cette nouvelle technologie de pelouse hybride, où, comme je disais pendant le match, il y a quelques drainages faits par les petits bouts de pelouse synthétique qui sont disséminés sur la pelouse, et en dessous, c'est du sable, et donc le sable, ça permet de drainer encore plus rapidement, c'est pour ça que c'est nouveau terrain. Non seulement ils sont magnifiques, voilà, pour jouer au foot, et en plus ils permettent de drainer lorsqu'il y a des grosses pelouses.
Voilà, c'était Kevin le jardinier.
J'aimais tellement les belles pelouses, et pour te dire la vérité, un de mes derniers clubs professionnels a refait sa pelouse, et on a pu suivre notamment sur les réseaux sociaux toute l'installation de la nouvelle installation, et c'était très intéressant.
Tu sais que Gilbert qu'à Auxerre, c'est nous qui avons fait nos pelouses du centre de formation quand c'est on l'a construit. Ah ouais, on a enlevé les cailloux, on a tout drainé, c'est nous qui avons fait des pelouses.
Ah ouais, genre pour faire les économies de jardinier.
Bah ouais, faut pas gâcher. Là, c'est vrai.
Bon, revenons à Bordeaux.
Après
ce moment jardinage.
Moi, c'est ce que j'allais demander à Benjamin, parce que c'est une victoire. Tu prends les trois points, mais sur la physionomie, même s'il y a eu mentalement le fait de revenir, enfin pas de revenir, mais de marquer ce deuxième but. On sait même pas comment ils ont réussi à marquer ce deuxième but. Moi, je trouve quand même que voilà, mentalement ça va, mais dans le football, c'est pas encore ça.
Ah ben, c'est très très loin d'être ça. Enfin, pour continuer la saison, il va falloir trouver une défense, quoi. C'est dramatique.
J'ai bien aimé Pembélé, hein,
qui a du mal en attaque, mais contre d'autres équipes, ça va être compliqué. Les deux seules satisfactions du début de saison, ça peut être Adli et Pembélé, ouais.
Pembélé, très bien. Aujourd'hui, offensivement, alors j'allais dire, il était un peu moins bien défensivement première mi-temps, mais c'est lui qui garde le point du match nul,
ouais,
là, parce qu'il
sauve.
Exactement. Contre Marseille,
après Benjamin.
C'est une vraie satisfaction, ouais.
Benjamin, oui, gardons le mot.
Il manque Koscielny, quand même, là.
Ouais, gardons
après Koscielny, tu me diras, il est plus sur la fin que sur le début.
Ouais, c'est clair.
Il est sur la toute fin, quoi. Mais Benjamin. Réjouis-toi quand même, parce qu'aujourd'hui, dans des conditions dantesques, venir gagner à Saint-Etienne dans ce qu'on a tous appelé, peut-être même si c'est un peu galvaudé, le match de la peur, mais ça fait que 5 journées, franchement, gagner ce match, ça peut être quand même une de ces victoires fondatrices qui vont permettre au groupe d'enchaîner de la confiance, parce que franchement, tu vois, il a été beaucoup critiqué, mais tu seras d'accord pour dire que Costil, il fait un gros match. Aujourd'hui, Wang, il a plein de qualités. Il a aussi des défauts, parce qu'à un moment, il est tout seul. Là, il part de son camp. On voit quand même qu'il manque beaucoup de vitesse. Mais par contre, aujourd'hui, le but qu'il met en deuxième, c'est un vrai but d'attaquant.
Très bon joueur.
On sait ce qu'il peut faire, on sait ce qu'il peut pas faire. Wang, c'est ça.
Voilà.
Il est très bon dans son registre. On sait qu'il peut faire certaines choses. Mais voilà, ça reste. S'il était accompagné avec un autre, ok. Mais tout seul, voilà, c'est un peu compliqué.
On est d'accord.
Bon, Benjamin, malheureusement, la liaison téléphonique n'est pas très bonne. Donc, on retient quand même que t'es satisfait. On va faire une évaluation dans quelques minutes, hein, mais il y a pas mal de choses à dire. Effectivement, il a raison sur la défense, parce que le pauvre Mécher, là, et lui, des fois, tu te demandes comment il a pu arriver là. C'est incroyable, mais... C'est incroyable, non?
Ouais, c'est vrai que on avait vu forcément des qualités. On se rappelle de son but de la tête en finale de Coupe de France avec Rennes contre le Paris Saint-Germain. Et ensuite, ça fait partie de ce genre de joueurs qui ont profité. Mais tant mieux pour eux.
Ouais, ils mangent encore dessus. Alors,
ils ont profité d'une belle saison, deux, trois belles prestations pour signer ensuite un bon contrat dans leur prochain club. Malheureusement pour les Bordelais, c'est pas avéré que c'est quelqu'un qui est très stable dans ses performances, même si ce soir il a quand même deux trois interventions où il sauve quand même un peu la baraque. Mais bon, c'est vrai que dans l'ensemble, malheureusement pour un club comme Bordeaux, c'est pas suffisant.
Moi, j'ai bien aimé Gregersen aussi, hein.
Ouais, il est combatif, quoi.
C'est pas un mec hyper talentueux, élégant, tout ça, mais dans son rôle, je trouve qu'il fait son rôle à perfection. J'aime bien.
Ok, alors on va parler de Saint-Etienne. On va faire, en fait, on va dissocier.
Tu veux parler de Ramirez, toi ?
On va dissocier les deux clubs, en fait. Non, parce que Saint-Etienne, en fait, il y a tellement de dossiers différents, avec en plus cette information cambodgienne du soir, donc d'un éventuel repreneur avec une offre de rachat à près de 100 millions. Donc, du coup, ce que je vous propose. Rentrons dans l'évaluation bordelaise, un peu plus dans le détail, et on fera le dossier stéphanois ensuite. Oui, donc bon, mes chers, voilà, on l'a un peu rhabillé pour l'automne, puisqu'on est en automne. Non, on est encore en été.
On est encore en été.
On l'a rhabillé pour l'été, donc.
En quelques jours.
Exactement.
Ouais, bah pas quand je regarde dehors.
Mais Wang, moi je avoue que à l'époque, Sampaoli voulait faire venir Wang.
Ouais, ouais.
Ah mais oui.
On s'étonnait en disant bah Wang, attends, c'est quoi?
C'est un joueur qui après je te laisse la parole Lionel, mais c'est un joueur qui donne tout déjà sur le terrain. Il a un super état d'esprit, il est toujours actif, il est tout, c'est chiant d'avoir à défendre sur ce genre de joueur. Faut toujours regarder où
oui,
il est
parce qu'il pas, quoi.
Est, voilà, il est toujours en mouvement. Alors c'est clair que c'est pas son grand ami, un de ses meilleurs amis d'ailleurs, Hounminson. Il a moins de qualité technique, il est moins rapide, mais bon, pour la Ligue 1, pour un club comme Bordeaux qui n'a pas énormément de solutions, ça fait le travail quand même, hein. Il les a sortis de quelques situations compliquées, dont ce soir.
Ouais, exactement. Bon joueur.
Ouais, tu regarderas mon Twitter, Gilbert, si tu veux. Alors, je m'étais fait insulter parce que je parlais avec quelques supporters marseillais qui voulaient un attaquant, tout ça. J'ai dit, moi, il y a Wang. Et le Wang, j'ai oublié de mettre un H. Alors, t'y connais rien, c'est pas un joueur, c'est pas ci, c'est pas ça. En plus, sans le H, c'est pas un Coréen, c'est pas... Je me suis fait insulter, mais ce joueur-là, franchement, oh, et comme par hasard...
Mais ça, c'est un compte de l'affection, Lionel.
Oui, sûrement, bah, c'est pas grave, de toute façon. Il y a des idiots partout, mais comme quoi, ils connaissent pas le football, parce que c'est un joueur que quelques heures après, Sampaoli convoitait, et on se rend compte aujourd'hui que c'est vraiment un très bon joueur lorsqu'il est exploité sur ses qualités, quoi.
Bon, effectivement, je suis d'accord.
Il fait quelque chose qu'il faut savoir faire dans le football. C'est un joueur qui fait seulement ce qu'il sait faire. Et ça, déjà, c'est une grande qualité.
Mais alors, j'aimerais quand même sur Bordeaux, il y a quelques trucs un peu mystérieux quand même. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du recrutement, les gars. Mais là, prenons les recrues. Alors, le Fran Sergio, lui, il avait été annoncé comme un mec top.
Je le connais. Franchement, c'est un bon joueur de foot.
Ah, bah alors, je vois pas.
Je ne sais pas s'il est adapté à la Ligue 1, mais c'est un bon joueur de foot.
Et pourquoi il joue pas actuellement ?
Après, je sais pas, je suis pas, comme tu sais, on n'est pas aux entraînements, je l'ai pas vu jouer depuis 2 ans, certes. Après, tu sais, j'avais aussi dit que pour moi, Danilo, c'était un bon joueur de foot. Bon, maintenant, il y a des supporters parisiens qui disent que Danilo, c'est une pipe presque. Moi, je ne trouve pas, je trouve qu'il peut être, il peut servir pour une équipe.
Après, ils sont bons quand ils s'en vont, alors, faut aussi se poser les bonnes questions, hein.
Dilrosun, moi je sais pas pour l'instant, on n'a rien vu. Manjas derrière, ça a pas l'air d'être. Je sais pas. Moi je me questionne sur le recrutement. Le meilleur recrutement c'est Pembélé. Hein.
Ouais, et puis le retour de Tavio qui n'est pas un recrutement mais qui peut être considéré comme comme.
Bon voilà, donc moi je sais pas. Bordeaux gagne, mais je pense qu'ils sont pas tirés d'affaire malgré tout. Ils vont rester en galère sans doute pendant quelques temps.
De toute façon, c'est sûr qu'on avait un peu plus de certitude entre guillemets parce que Bordeaux est sur une nouvelle dynamique avec un nouvel entraîneur, avec une nouvelle direction, avec quelques recrues, contrairement à Saint-Etienne qui n'a recruté personne sauf un joueur. Donc c'est pas personne, mais voilà, et qui a très très peu recruté. Maintenant, c'est clair que Bordeaux, tu vas pas compter sur eux pour finir dans le top 6, hein, même pas dans le top 10. Déjà, s'ils finissent tranquillement en se maintenant pour préparer la saison prochaine, ce sera déjà une belle performance.
Après, la décharge de l'effectif, hein, on voit que Petkovic, par rapport à tout ce qui s'est passé, recrutement tardif et tout ça, et il cherche beaucoup son dispositif déjà tactique. Il a changé 4 fois de mémoire, au moins 4 fois sur les 6 matchs de dispositif tactique. Donc c'est difficile aussi pour les joueurs de trouver des automatismes. Là, c'est un jeu plus direct. Bon, on va voir s'il va réutiliser ça, mais il faut donner un peu de stabilité si tu veux aussi que ton groupe réussisse à trouver ses automatismes, à se projeter comme il faut, voilà, c'est parce que sinon si tu changes tous les 4 matins ça va pas le faire. Là Petkovic est vraiment en train de chercher le bon système. J'espère qu'il l'a trouvé là, qu'il va y avoir un peu qu'il va asseoir un petit peu son collectif, parce que sinon les joueurs vont être perdus très longtemps.
Saint-Etienne, on y va, les gars. Julien, pour démarrer, est avec nous. Salut, Julien.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous.
Bonsoir, Julien.
Salut, bon, Saint-Etienne est avant-dernier ce soir. Alors, il y a cette information-là d'une offre donc du prince héritier du Cambodge qui serait prêt à mettre 100 millions pour racheter le club. Alors, je sais pas s'il faut lier tout de suite là les résultats de ce soir avec le rachat du club. Enfin bon, il y a une situation globale évidemment qui est très inquiétante à Saint-Etienne. Pas de recrutement, on le rappelle, sauf Ramirez qui a rien coûté. Bref, mésentente parmi les actionnaires. Sur le terrain, ça va plus. Julien, toi, le truc prioritaire dont tu veux parler, c'est quoi ?
Le chantier est tellement grand que, très sincèrement, ce soir, je ne sais même pas par où commencer. Mm-hmm. Comme tu dis, il n'y a pas eu de recrutement. La direction, c'est une catastrophe. On doit être le seul club à avoir une direction bicéphale comme ça. C'est catastrophique. Ce soir, on voit bien sur le terrain, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ramirez, on peut pas dire que pour le moment, il ait fait grand chose. Le seul que je sortirais un peu, les deux que je sortirais un peu du lot, Cazerie. C'est Cazerie. Ouais. Voilà, forcément. Et voilà, ouais, j'ai trouvé Crasso qui avait, globalement,
Bonne rentrée, t'as trouvé?
Ouais, j'ai trouvé bonne rentrée.
Ah bon?
J'ai trouvé qu'il était, Neyou,
tu trouves pas qu'il fait un match correct?
Ouais, Neyou, je suis d'accord. Crasso, bon, bof.
Ouais, Crasso, Neyou aussi, mais ouais, Crasso, j'ai trouvé qu'il avait été pas ouf. Après, c'est tellement, on va dire, c'est tellement faible que c'est même compliqué d'arriver à ressortir vraiment des joueurs du lot. Après, voilà, on s'est commencé à Saint-Etienne. Hein, j'ai appelé, je passe très rarement, mais ça m'arrive de temps en temps. À chaque fois que j'appelle, malheureusement, c'est que des défaites, quoi. Ça fait des années que ça dure. Là, on est 19e. J'ai pensé au moins qu'on aurait réussi à faire un match nul. Donc, en plus, j'ai perdu mon côté match. Je me voyais au moins faire un bon un partout. J'étais optimiste.
Ah, on avait joué un partout aussi, ouais. Mon cher Julien.
Ça me rassure, mais voilà, après, ils ont Bordeaux, Wang, ils peuvent bien, merci Wang, après, mes deux buts. Voilà.
Ce qui est vraiment frustrant pour Saint-Etienne, c'est qu'en première période, ils sont loin d'être décrochés, ils prennent un contre, par contre, où c'est très mal défendu, où il y a beaucoup trop d'espace entre les lignes.
Mais ils auraient mérité mieux, à la mi-temps, par exemple, ils ne méritent pas d'être menés.
C'est ce que j'allais dire, par contre, ouais. C'est vrai que derrière, ils ont une ou deux opportunités, ils ont des situations de tir où tu vois, le ballon, il arrive pile poil à cette reprise de volée là, de Neyou, justement, qui arrive pile poil sur Costil, il y a le bel arrêt dans le soupirail, là. Ouais. Cette frappe à ras du poteau où Costil fait encore une fois un très bel arrêt, donc c'est vrai qu'ils sont pas vernis. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a ce déluge compliqué de développer du jeu. Ils finissent par égaliser, on ne sait où. Ils prennent un but 5 minutes derrière. Ah, tu as vraiment l'impression que c'est l'équipe là. Elle peut faire ce qu'elle veut. T'as Amouma qui est quand même un mec qui est bon dans la finition, qui est un très beau joueur de foot. T'as l'impression qu'il arrive. C'est pas une impression. Il n'arrive plus à mettre un but depuis le début de saison. Ah, c'est vrai que là, vous êtes dans une situation qui est difficile pour le moins.
Ouais, mentalement, ouais.
Moi, je vois pas très sincèrement, je vois pas comment cette année, très clairement, on jouait le maintien, mais de toute façon, ça, on le savait. J'ai peur que, ça soit très, très compliqué cette année, même si le club est racheté. Franchement, je suis vraiment pas optimiste pour l'année qui arrive. Et, c'est vraiment, ça va être très compliqué.
Ouais, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce projet? Parce qu'on entend parler du projet Puel et tout ça, mais moi, un projet, normalement, ça n'a pas bougé. Au-delà d'un projet qui ne bouge pas, tu travailles avec tes mêmes joueurs, t'espères quand même qu'avec des années d'expérience, puisqu'on s'appuie sur ce projet-là, sur les jeunes, en intégrant les jeunes avec des années supplémentaires, enfin, au moins une année supplémentaire, j'ai l'impression, moi, que ça ne progresse pas et peut-être même que ça régresse. Comment toi, tu vois le truc?
Ah, c'est clair et net. Il y a eu beaucoup plus de progression de l'équipe quand Puel est arrivé il y a 3 ans maintenant. Il y a eu beaucoup plus de progression, mais pourtant, on partait déjà d'assez bas. Là, on voit, je sais pas si le message du coach passe plus, je sais pas. Très sincèrement,
ça régresse par rapport à l'an passé.
Ah, mais voilà, on n'est pas dans le groupe, mais je pense qu'il y a quelque chose qui passe plus. Et le club, si effectivement le club est racheté, donc, qu'est-ce que ça va être? C'est pareil, si c'est pour avoir un rachat, alors oui, tout le monde veut un rachat, moi le premier. On verra bien ce que ça donne. Est-ce que ça va faire comme à Bordeaux? On voit bien Bordeaux dans la situation dans laquelle ils sont. Est-ce que c'est la solution? Je sais pas, de toute façon. À l'heure actuelle, de toute façon, on est en 19e et en proposant ce qu'on propose sur le terrain, de toute façon,
je pense que ça peut difficilement être pire.
Ça peut difficilement être pire, oui, c'est exactement ça.
Ouais, le problème, c'est pas d'être racheté, c'est aussi de savoir quelle personne on va mettre dedans, comment ça va être dirigé et tout ça, parce que.
Si c'est pour faire du trading, si c'est pour faire tous ces modèles économiques qui tuent, qui pour moi tuent le football, qui sont en train de tuer pas mal de clubs de Ligue 1. Ça va être compliqué.
Si alors il y en a qui font du bon trading, hein, l'étranger, hein, ils se débrouillent bien, mais ils savent le faire.
Ah, mais à l'étranger.
Voilà, si ce sont ceux qui sont partis de Bordeaux qui viennent à Saint-Etienne, ça sera non, mais,
oui, voilà. Et puis, tu sais, il y a différents types de trading. Il y a le trading parce que aujourd'hui la Ligue 1 est un championnat où les clubs doivent être vendeurs parce que le modèle économique, malheureusement, il a été tellement mal organisé que ils sont obligés de vendre pour équilibrer leurs comptes. Donc il y a des clubs aujourd'hui, tous les clubs de Ligue 1 sauf le Paris Saint-Germain sont des clubs qui sont dans un mode entre guillemets de trading, c'est-à-dire que t'es obligé d'acheter comme il faut pour revendre parce que sinon t'as pas la possibilité, la capacité financière de garder tes meilleurs éléments, tu vois, puisque la plupart des clubs ont des déficits structurels. Maintenant, si tu viens avec des idées pour acheter des joueurs parce que c'est des joueurs qui ont un potentiel et parce qu'ils vont rester avec toi un bout de chemin dans leur carrière, comme fait Nice, 2, 3, 4 ans, permettre de grandir avec le club, le joueur va grandir, le club va grandir, et ensuite les revendre avec une plus-value, c'est un modèle de trading, mais c'est surtout un modèle de club moderne. Tous les clubs qui n'ont pas la puissance financière du PSG, de Manchester City ou même de Manchester United, etc., fonctionnent comme ça. Donc le trading, c'est pas forcément un gros mot, mais par contre, si c'est juste faire du trading pour acheter des joueurs, faire une plus-value, encaisser, acheter le prochain joueur, faire une plus-value, encaisser, mais jamais avoir d'ambition, là, c'est dommage.
Tu te rends compte, Gilbert, que à Auxerre, on avait 30 ans d'avance sur le trading?
Ouais.
On est les dinosaures de, parce que là c'était
on disait
la formation. Voilà. Ouais, là voilà. Et maintenant on appelle ça le trading, mais c'est exactement ce que faisait, c'était le modèle économique d'Auxerre il y a 30 ans en arrière.
Ouais. Avec une meilleure formation aussi que pas mal de clubs aussi.
Ah la formation. Julien. Alors mais tu pouvais garder tes jeunes parce qu'il y avait pas eu la
c'est
Ray Bosman.
C'est ça.
Julien, dis-moi, si demain le club est racheté par un Cambodgien, ça te convient toi?
De toute façon, c'est ce que je t'ai dit, ça, que ce soit un Cambodgien ou que ce soit qui que ce soit d'autre, de toute façon.
Tu prends.
Malheureusement, mais de toute façon, on n'a pas le choix. C'est pas. On n'est pas comme en Espagne ou dans certains pays où il y a des socios où le club appartient en partie à ses supporters. Nous, on sait que ça va être comme ça, donc on verra bien ce que ça donnera. Et on peut que croiser les doigts et attendre. Bon. Malheureusement, pas grand chose.
Merci Julien, bonne soirée.
Avec
salut
plaisir.
Julien.
Merci
salut
à vous.
Julien.
Salut
dans Paris. Les gars.
Salut. Mohamed est là. Lui va parler de Claude Puel. Mohamed. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Gilbert, bonsoir messieurs.
Bonsoir Mohamed.
Oui, en effet, moi je veux parler de Claude. J'adhère un peu au discours de Lionel, qui parle de régression. En fait, je m'en prends rarement à l'entraîneur, parce que souvent c'est les joueurs qui pour moi sont responsables. Mais là, malheureusement, je trouve que quand on prend certains joueurs, le petit, comment il s'appelle sur l'aile, Nordin, même Camara l'an dernier, moi je vois que des joueurs qui régressent. Je vois vraiment plus de joueurs qui progressent. Et ça m'interpelle. Et après, j'ai presque une question à vous poser, vous qui avez une culture football plus grande que moi. On ne cesse de vanter le côté formateur de Puel, formateur de jeunes. Mais les gars, sur les 4 ou 5 derniers clubs qu'il a fait, est-ce que vous connaissez au moins 2 joueurs par club qu'il a pris jeune et qui sont devenus de très bons joueurs? Mais c'est pas, je me moque pas. Si vous savez, vous, parce que moi, j'ai regardé, j'ai pas connu. Donc, est-ce que c'est pas un peu survendu, son histoire de formateur, de prendre des jeunes, de les former, de les faire monter? Quand je cherche, moi, je trouve pas de jeunes.
Non, mais il y a une question.
Qui sont devenus très bons footballeurs.
Oui, mais Mohamed, il y a une question de compatibilité avec les nouvelles générations aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être formateur, c'est quoi? C'est pouvoir accompagner un joueur pour le faire progresser. Pour le faire progresser, faut qu'il ait envie de progresser. Faut qu'il soit conscient qu'il a besoin de progresser. Mmh. Et c'est pas pour défendre Claude Puel, mais il l'a dit dans maintes et maintes interviews. Et pour avoir quand même côtoyé cette jeune génération il y a encore pas si longtemps, même si c'était pas en Ligue 1, je peux te dire que pour beaucoup, c'est très difficile de leur faire entendre que oui, c'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité, mais c'est des joueurs qui ont encore tout à apprendre. Si tu les écoutes, faut pas leur parler d'âge, hein, pour paraphraser le génie français. Faut pas leur parler de les anciens, faut les respecter. Faut pas leur parler de les jeunes, ils vont chercher le ballon. Faut pas leur parler de nous, on a moins de responsabilité parce qu'on a moins d'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que l'entraîneur est compatible avec cette génération? Et est-ce que les jeunes joueurs sont conscients qu'ils doivent progresser?
Alors, attention, ouais. Juste une petite nuance, Kevin. Ouais. T'as parfaitement raison, hein. Mais moi, ayant eu des jeunes comme ça dans les pognes à entraîner, je me suis pris la tête et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, les premiers fautifs, ce ne sont pas les jeunes, ce sont un, les dirigeants, oui, les quelques-uns des formateurs qui les voient plus beaux qu'ils ne sont et qui les traitent. Mais attention, aussi parce que ces formateurs-là ne peuvent pas intervenir dans leur formation comme ils veulent. Comme ils le veulent, parce que on les paye déjà tellement, les clubs les payent tellement déjà cher, à la base, à 14-15 ans, ils donnent déjà de l'argent, même avant, pour les avoir, que le formateur qui coûte moins cher que le jeune, il ne peut même plus faire la formation qu'il voudrait. Ces jeunes-là sont pourris, je suis d'accord avec toi, mais ce ne sont pas les premiers fautifs. Pour moi, ce sont tous ceux qui sont derrière, très souvent mal encadrés, familialement ou qui attendent, qui voient leur jeune, soit le fiston, soit le neveu, soit ce que tu veux, ou le copain d'à côté qui voit le jeune et qui dit ah ouais, il est très fort. On leur fait une tête terrible. Eux ne sont pas capables et ce ne sont pas les jeunes que je voudrais eux-mêmes. Que je voudrais fustiger, c'est tout aussi ce qu'il y a autour, toute la formation qui est tributaire de comment on les traite aussi, parce qu'on ne peut plus former comme on voulait, tout simplement parce qu'on est pourri par l'argent, parce que voilà, et ça pour moi c'est ce qui a gangréné cette nouvelle génération. Il faut revenir franchement à des bases saines, parce que là on
revenons sur Puel.
Kevin, oui, excuse-moi Gilbert, vas-y. Je suis d'accord Kevin. Sauf que, qui c'est qui donne les clés
Là, c'était Lionel.
Lionel, excuse-moi. Ouais. Qui c'est qui donne les clés de l'équipe aux jeunes? L'année dernière, il a mis tous les vieux au rancard, il a pris que des jeunes. S'il a des problèmes avec les jeunes, pourquoi il leur donne carte blanche? Pourquoi il leur donne les clés de l'équipe? Et c'est Cazri qui lui sauve la saison en fin de saison.
Tu sais pourquoi? Parce que on maintenant les entraîneurs et que ce soit à Saint-Etienne ou au PSG ou n'importe où, les entraîneurs sont tributaires des dirigeants. Et quand t'as un dirigeant qui descend, pas n'importe où, mais très souvent dans 95% des clubs, quand t'as un dirigeant ou un agent qui intervient trop, qui est trop intervenant dans ta composition d'équipe, dans ce que tu voudrais faire, dans ton projet de jeu, dans tout ça, et ben à un moment donné, les mecs il y a très peu maintenant de. Alors je suis d'accord avec toi. Il y a très peu d'entraîneurs qui disent allez vous faire foutre. Moi je veux mourir avec mes idées. Si c'est vous qui voulez tout faire, et il y en a qui l'ont fait. Peut-être même le dernier du PSG qui est parti gagner la Champions League ailleurs.
Bon, moi c'est mon avis. En tout cas.
Merci les gars, bonne continuation.
Ciao Mohamed.
Bon oui, c'est vrai que Claude Pierre. Alors, Claude Pierre, c'est toujours brillant quand il donne des interviews écrites, on se souvient d'une interview au Monde. Bon, et puis des fois, tu te poses des questions quand tu vois ses équipes jouer, parce qu'en fait, alors soit il n'a pas le matériel pour mettre en accord ses idées avec le terrain, soit il devient un théoricien. En fait, je sais pas, c'est assez étrange.
Ouais, mais Claude, ça a été aussi, c'est beaucoup surfé sur la vague sur la vague niçoise. Je pense que il surfe encore aujourd'hui sur ce qu'il a pu faire et mettre en place, qui était très bien à Nice, mais que tu ne peux pas faire partout, et c'est pas parce que tu l'as fait une fois que ça marche tout le temps.
Oui, tu veux dire en termes de formation.
Ouais, formation, il avait sorti plein de jeunes avec Nice, il avait fait du très très bon travail. Maintenant, c'est quelques années, je sais plus, ça fait combien de temps maintenant qu'il était.
Non, mais ça fait 20 ans qu'il est coach. Hein. Faut se souvenir qu'il a été champion de France avec Monaco en 2000.
Ouais, mais c'était une autre. Il sortait pas de jeunes, hein, pour répondre à Mohamed.
Ce que je veux dire, c'est que c'est un gars d'expérience qui a gagné.
Mais il y a 20 ans, tu coachais pas de la même manière que maintenant. Kevin l'a dit, il a parfaitement raison. Tout est différent. Hein.
Bon, en tout cas, voilà le résultat.
Ton langage, ce que tu mettais dans le vestiaire il y a 20 ans, Kevin, je vais pas paraphraser Kevin, mais il a tout dit. Il y a 20 ans, ce que tu demandais à des jeunes qui buvaient tes paroles, qui voulaient faire comme les grands et tout ça. Encore une fois, je veux pas fustiger la nouvelle génération. C'est pas ça. Hein. C'est comment les amener là, ces jeunes, et maintenant ce qu'on leur demande, ce qu'on attend d'eux. Eh ben, le discours de l'entraîneur n'est plus du tout le même que le dit maintenant qu'il y a 20 ans.